Radio Bar qu'on se retrouve avec notre invitée pour cette troisième partie, Catherine Bossis. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure. On sait que vos grandes responsabilités aujourd'hui, c'est une vice-présidence du conseil départemental, notamment chargée d'un volet très social, mais c'est normal aussi pour le département, l'enfance, l'inclusion sociale, le logement. Alors, tout d'abord, un petit mot quand même, rappeler cette campagne, puisque je le disais, vous avez fait quand même, vous avez créé une certaine surprise en battant le maire sortant de Narbonne, Didier Mouly.
Oui, effectivement, on a fait un score, hein, comme on dit en politique. Alors, je pense que c'était dû à plusieurs choses. D'abord, je pense que Didier Mouly n'a pas réellement fait campagne pour ces élections départementales.
Il n'avait pas pris la mesure de cette élection, pensez-vous ?
Alors, peut-être pas pris la mesure, mais en tous les cas, il n'avait pas un réel projet départemental à proposer, sachant qu'on est quand même dans une élection avec des compétences qui sont spécifiques, celles du département, et qu'il y avait un vrai travail d'explication à faire sur ce qu'était la politique du département, notamment au niveau des solidarités, chose qu'il n'a pas fait. Je pense qu'il n'avait pas non plus un projet à porter, en dehors du fait de succéder à son père sur ce mandat.
Oui. Alors maintenant, c'est vous qui avez hérité avec votre binôme de ce poste et vous vous êtes lancé à corps perdu, si je puis dire, dans cette
nouvelle aventure,
qui est assez quand même assez lourde. Le social, c'est normal, c'est le département, c'est sa compétence essentielle. Vous avez un gros volet dans cette compétence-là.
Alors effectivement, André Viola m'a fait confiance et donc m'a confié une délégation qui est extrêmement large puisqu'elle va de l'enfance. Alors l'enfance au niveau du département, c'est deux dossiers, la PMI, hein, la protection maternelle et infantile, et puis l'aide sociale à l'enfance. Alors là, on a deux chantiers importants. Sur la PMI, on va essayer de compenser la désertification médicale en développant le bus PMI pour aller dans les zones rurales, pour apporter à la fois des consultations pédiatriques, puisque dans nos PMI, nous avons des pédiatres, des sages-femmes, des puéricultrices, mais envisager éventuellement de développer nos consultations en gynécologie, puisque ça répond à un vrai besoin. On sait qu'on a un déficit de ces professions et qu'il est aujourd'hui difficile d'avoir des consultations notamment en zone rurale.
Ce que vous essayez de mettre en place, c'est une sorte de maison médicale ambulante, alors.
Tout à fait. Tout à fait.
Pour les villages, les tout petits villages de l'Aude.
Tout à fait. Dans la PMI, hein, il y a l'aspect prévention. Et ça, c'est quelque chose de très important. Cette prévention, elle a lieu pendant la grossesse et puis après l'accouchement avec la maman et l'enfant. Alors, on développe aussi un nouveau dispositif qui s'appelle le Prado. C'est-à-dire que les sages-femmes des PMI vont aller chez les mamans qui le souhaitent, après l'accouchement, les accompagner. Donc, parfois, elles seront accompagnées de puéricultrices. Parce que c'est vrai que, surtout pour un premier enfant, quand on n'a pas une maman ou une belle-mère à proximité, un accompagnement est parfois nécessaire quand on a des difficultés, par exemple, par rapport à l'allaitement, des bébés qui pleurent beaucoup. Donc là, il y a simplement une présence qui peut apporter davantage de sérénité pour ces jeunes mamans.
Et alors le défi, justement, dans un département aussi rural que l'autre, c'est ce service-là, il est, j'allais dire, excusez-moi, banal en ville, mais là, il faut l'apporter dans des tout petit village.
Tout à fait. Et c'est bien l'intérêt de mettre en place ce bus pour aller à la rencontre des populations. Je crois, moi, vraiment, et c'est mon idée quand je suis rentrée en politique, c'est l'action politique, on doit essayer de répondre aux besoins des usagers. Ça me paraît essentiel, en apportant effectivement de l'efficience, de l'efficacité. Mais il faut être au plus près des besoins des usagers, tout en portant un projet collectif. C'est vraiment ça, l'action politique. Et à travers ce service qu'on est en train de développer, on répond à un réel besoin, notamment avec cette problématique de désertification médicale que connaît le département de l'Aude.
Et est-ce que vous favorisez aussi l'implantation alors de maisons médicales sur place, enfin de bâtiments ?
Alors on y réfléchit effectivement en partenariat.
Parce que c'est une tendance pour sauver un petit peu le médecin généraliste dans certains villages ou dans certaines zones.
Tout à fait. Donc on y réfléchit effectivement en partenariat avec d'autres collectivités locales, les mairies, les agglos, pour effectivement essayer de mettre en place des maisons médicales avec des médecins, des infirmières, des kinés, de façon à répondre là aussi aux besoins d'une population qui est vieillissante et qui est parfois loin des qui est parfois...
Oui, c'est le casque que je décris,
c'est
le casque que porte Catherine Bossis qui s'échappait.
Donc oui, une population qui est parfois loin des villes et donc des professionnels de santé.
Et alors, parmi vos compétences, il y a également l'inclusion sociale, même si le mot n'est pas très beau, il faut quand même que vous expliquiez ce que ça recouvre.
Alors, le département a en charge le paiement du RSA. Mais il a également en charge l'insertion des allocataires du RSA. Puisqu'il faut le savoir, quand on est bénéficiaire du RSA, on signe un contrat d'engagement qui nous oblige à entreprendre des démarches pour essayer de retrouver un travail. Donc les bénéficiaires que nous suivons, ce sont des personnes dont il faut essayer de lever les freins pour un retour à l'emploi. Alors ces freins, ça peut être un problème de mobilité, donc on les accompagne par exemple pour passer leur permis de conduire. Ça peut être un problème de formation, là aussi le département les accompagne. Pour des jeunes femmes, ça peut être un problème de garde d'enfants. On sait que, par exemple, sur des mamans qui sont seules, parfois, le fait de ne pas travailler, c'est parce que ça coûte cher de faire garder son enfant. Et donc, là aussi, il faut trouver des mesures permettant un retour à l'emploi de ces bénéficiaires du RSA. Donc, on essaie d'innover. Donc, il y a différents dispositifs. Les chantiers d'insertion, c'est un premier dispositif qu'on essaie là de féminiser, parce que c'est vrai qu'on a essentiellement des chantiers d'insertion dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des espaces verts. Donc là, on essaie d'envisager de nouvelles pistes permettant à des femmes d'insérer, notamment autour de l'aide à la personne, puisqu'il y a un vrai besoin sur notre territoire. Il y a une niche d'emploi qu'il va falloir exploiter. Et puis, à côté de ce dispositif de chantier d'insertion, il faut envisager d'autres dispositifs. Certains bénéficiaires peuvent être intéressés par la création d'une activité. Donc, il faut les accompagner, là aussi.
Vous voulez dire créer une entreprise ?
Tout à fait. Hein, une micro-entreprise, dans un premier temps, en tous les cas, pour créer leur propre activité. Donc, là aussi, ça nécessite un certain nombre de qualifications. Et donc, il faut les épauler, les accompagner dans ce projet. Donc, on travaille en partenariat avec notamment la boutique de gestion sur Narbonne. Mais on a d'autres partenaires sur le territoire, dans cet accompagnement de bénéficiaires sur la création d'activités.
Oui, alors cette inclusion sociale, ça paraît parfois assez abstrait. L'accord qui est passé avec les bénéficiaires du RSA est probablement souvent plus théorique que pratique. Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples concrets d'une filière de réinsertion qui fonctionne ?
Alors, je vais vous donner un exemple, un partenaire avec lequel on travaille très très bien. C'est une association qui se trouve sur Carcassonne. Cette association a une structure de chantier d'insertion, puisqu'elle a une activité de traiteur. Donc elle prend des bénéficiaires du RSA et elle les forme au métier de la cuisine et du service. Une fois que ces gens sont suffisamment aguerris et maîtrisent un certain nombre de savoir-faire, ils passent dans une entreprise d'insertion, c'est un restaurant qui se trouve à Carcassonne. Et là, ils vont être soit en salle pour des activités de service, soit en cuisine. Et l'idée, c'est à travers ce parcours, donc de chantier d'insertion plus d'entreprise d'insertion, de leur donner des outils, une formation qui va leur permettre ensuite de retourner dans le droit commun et d'être embauché dans une entreprise, un restaurant, une collectivité. Voilà.
Oui, là, par exemple, c'est favoriser les emplois de l'industrie touristique du département, dans ce cas-là précis.
Tout à fait.
Autre exemple, éventuellement. Alors, le bâtiment, vous parliez du bâtiment qui est... un classique, si je puis dire.
Alors, au niveau du bâtiment, on a des chantiers d'insertion sur la rénovation du patrimoine rural. Je pense à des fontaines, à des lavoirs. Donc là, on a tous les métiers, tous les corps de métiers du bâtiment qui sont représentés. La taille de pierre, tout ce qui va tourner autour du plâtre. Parfois même, on va un petit peu plus loin avec des formations de plombiers, d'électriciens. Donc là aussi, alors le chantier d'insertion, ça permet de prendre son temps, c'est-à-dire d'avoir une pédagogie un petit peu particulière pour ces personnes qui sont plus en difficulté que d'autres pour retrouver un emploi, de les accompagner, de leur donner confiance et de leur montrer qu'elles ont, elles aussi, des capacités pour pouvoir surmonter leurs difficultés. Et donc on va prendre le temps avec une pédagogie particulière, un accompagnement plus long, de façon à ce que ces personnes-là retrouvent le droit commun et donc rentrent de nouveau dans l'activité professionnelle.
Catherine Bossis, la troisième volée de vos compétences au département, c'est le logement. Alors expliquez, parce que qu'est-ce que ça veut dire le logement? C'est très vaste, ça n'est pas le logement social genre HLM par exemple.
Alors ça l'est à travers l'office départemental. Donc l'office départemental HLM que le département gère, hein, Habitat Audoy, mais plus largement, c'est...
Qui est un bailleur social classique.
Qui est un bailleur social classique, tout à fait. Alors, en dehors de ce bailleur social, le département va porter aussi une politique sociale du logement, notamment en accompagnant des propriétaires occupants à faire des travaux dans leur résidence, essentiellement des travaux pour baisser la facture énergétique. Et puis, on va intervenir aussi sur le logement pour accompagner des familles en difficulté. Donc, il y a des aides pour payer, pour rentrer dans le logement. Par exemple, on va prêter le montant du premier loyer qui sera ensuite remboursé. On peut accompagner certaines familles aussi en difficulté à gérer mieux leurs factures d'électricité ou de gaz. Donc voilà le dispositif départemental au niveau du logement. On travaille là aussi en partenariat avec les autres agglomérations, enfin avec les agglomérations et les communes, pour réfléchir notamment à travers le contrat de ville à la rénovation des centres urbains, que ce soit dans les quartiers prioritaires, mais aussi en zone rurale, puisque là on a également une rénovation des centres de village sur lesquels on réfléchit.
Voilà. Alors, une remarque, Michel.
Voilà un dispositif départemental qui n'est pas connu, en fait, ou très peu connu des gens qui pourraient être justement intéressés par ce genre d'aide. En fait. Je pense notamment dans le centre-ville de Narbonne, où il y a pas mal encore, hein, hélas, de logements qui mériteraient d'être sérieusement retapés, en fait, réaménagés. Alors, c'est vrai qu'il y a des dispositifs nationaux, comme gérés par l'ANA, en fait, avec des soutiens derrière des communes. Mais là, c'est particulier, en fait, de l'aide, par exemple, hein, au premier loyer ou pour permettre à des familles de mieux prendre en compte dans leur budget, en fait, la gestion de leurs dépenses, notamment énergétiques. Ça, c'est tout à fait intéressant et c'est vrai que c'est pas très connu.
Non, tout à fait. Alors là aussi, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à communiquer davantage sur nos compétences.
Oui.
Donc on y travaille. Et puis, faire connaître aussi toutes les actions que l'on mène avec des partenaires. Je pense notamment à un partenaire avec lequel on travaille sur Narbonne, c'est les Compagnons Bâtisseurs. Avec eux, on a passé une convention et ces Compagnons Bâtisseurs vont aider des familles qui sont propriétaires occupantes, qui ont peu d'argent, mais qui souhaitent rénover leur habitat, justement pour baisser leur facture énergétique. Et donc là, ces habitants vont être accompagnés par des professionnels du bâtiment pour rénover eux-mêmes leur habitation. Donc là, je trouve que c'est particulièrement intéressant, puisqu'on n'est plus dans une logique de guichet, mais on est vraiment dans une logique de responsabilisation des usagers. Effectivement, on va les accompagner, effectivement, on va les aider, mais eux aussi vont céder.
Voilà, mais c'est vrai, Michel a raison, c'est un aspect qui est relativement méconnu et sur lequel vous avez besoin de communiquer, d'expliquer les choses.
Tout à fait.
Catherine Bossis, pour terminer, on a parlé du département et c'est sans doute ce qui occupe une grande partie de votre temps, mais vous êtes aussi conseillère municipale d'opposition. Vous faites partie de l'association J'aime Narbonne, dont le but avoué est la reconquête de la mairie en 2020, si je ne me trompe. Mm-hmm. Alors, comment les choses se passent-elles? Parce que, en général, les reconquêtes de mairie, on s'y prend 1 ou 2 ans à l'avance. On ne s'y prend pas 3 à 4 ans à l'avance. Ça a une signification, cette précocité, si je puis dire.
Alors, bon, je pense qu'il fallait d'abord se structurer, donc parce que je crois que cette reconquête se fera à travers un collectif. Je crois pas trop aux femmes et aux hommes providentiels. En revanche, je crois à l'intelligence collective. Et l'idée de cette association, c'est effectivement de réfléchir ensemble à la mise en place, et avec les Narbonnais également, à la mise en place d'un projet d'alternance pour les prochaines élections départementales. Ensuite, notre rôle d'opposition, c'est d'être vigilant, c'est d'avoir effectivement une exigence vis-à-vis de la municipalité en place, de questionner les différents projets qui nous seront proposés. C'est ça, notre rôle d'opposant. Et on essaye, effectivement, à travers cette association, de travailler à avoir un rôle actif vis-à-vis de l'équipe en place.
Oui, oui. Alors, Michel, une remarque là-dessus.
Une petite remarque toute simple. Quoi. C'est vrai que Catherine vient de dire « je crois à l'intelligence collective », qui n'y croit pas, hein, bien sûr, mais au bout d'un moment quand même, il faudrait bien que cette intelligence collective sorte, en fait, une intelligence toute simple, pour justement ordonner, en fait, rendre cohérent cet ensemble-là et puisse s'exprimer au nom, effectivement, de cette intelligence collective.
Voilà, tu veux dire par
donc,
là
il faudrait bien qu'à un moment donné du groupe J'aime Narbonne, dont on a bien compris la dernière fois qu'il était ouvert à tous les partis, en fait, ou en tout cas personnalités qui se reconnaissent dans le projet, non pas simplement en fait, l'étiquette ou le masque du Parti socialiste, même si. Donc voilà, donc, on est dans la phase maintenant de décantation dans ce groupe, de sélection sans doute en fait, de celui ou de celle qui conduira en fait, le combat lors des prochaines élections. Moi, à titre personnel, j'avoue que une dame en fait, dans la tête de ce collectif ne me déplairait pas du tout.
Voilà,
on donne pas de nom, enfin bon.
C'est une opinion personnelle maintenant. qu'en pense, par exemple, une dame comme Catherine Bossis?
Je ne sais pas, posez-vous la question.
Bon, je pense que c'est un petit peu prématuré pour le moment de réfléchir effectivement à un leader. C'est vrai qu'actuellement, on a un porte-parole qui est Nicolas Sainte-Cluque. On verra dans 2 ans, il va falloir qu'on travaille, ça me paraît d'abord primordial. Et puis ensuite, je crois que le leader va sortir de ce travail naturellement.
Pas comme un lapin du chapeau
non.
Du prestidigitateur quand même.
Non, du tout. Je crois que le leader, il est décidé aussi par les autres, par le groupe qui va porter. Voilà. Et c'est le groupe qui va faire émerger ce leader. Donc pour le moment, ça n'est pas d'actualité et je pense qu'il émergera quand ce sera le temps de le faire.
Voilà, et ça sera une occasion de vous retrouver peut-être à ce micro prochainement. En tout cas, merci Catherine Bossis d'avoir été notre invitée aujourd'hui. La prochaine fois, c'est Didier Aldebert, un collègue à vous, au niveau départemental, un conseiller départemental, mais qui est également maire de Vinassant et puis qui est aussi président de la SEM, la Société d'économie mixte, à Lénis. Nous parlerons donc d'économie avec Didier Aldebert. Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.